Alors qu'elle soignait les enfants pauvres de l'hôpital public surpeuplé de Lagoa, à Rio de Janeiro, le médecin Vera Cordeiro sentit sa colère monter. Des maladies traitées sans problème dans les cliniques privées pour les nantis étaient synonymes de condamnation à mort pour un grand nombre de ses patients, privés de repas réguliers et de conditions de vie saines. Aussi, en 1991, Vera Cordeiro fonda une association à but non lucratif, Asociación Saúde Criança, Association pour la santé de l'enfant, afin de briser le cycle de la pauvreté en dispensant les soins médicaux dont les enfants avaient besoin et en soutenant leurs familles démunies. Au départ, la femme médecin dépendait de fonds personnels et de l'aide de sa famille et de ses amis. Mais au fil du temps, elle comprit qu'il lui fallait obtenir l'appui des riches et des puissants de Rio. Bien que peu intéressée, sinon rebutée, par le pouvoir, elle travailla d'arrache-pied pour attirer l'attention des donateurs privés, des autorités gouvernementales, des médias et du public. Son ONG, rebaptisée depuis Instituto Dara, devint l'une des organisations à but non lucratif les plus prospères du pays. Les éloges ne tarissaient pas. En cours de route, Cordeiro se rendit compte qu'elle était désormais plus à l'aise avec le pouvoir. Elle possédait d'excellentes relations à l'échelle nationale et internationale et prenait fréquemment la parole au Forum économique mondial et à d'autres conférences prestigieuses. Mais elle commença à avoir des retours inquiétants de la part de ses proches. Des collègues se plaignaient qu'elle les interrompait sans cesse et qu'elle faisait fi de leurs idées. Sa fille adulte se demandait pourquoi elle accordait maintenant une telle importance aux cérémonies de remise des prix et autres événements très médiatisés. Elle reconnut que son immersion dans le pouvoir était en train de la changer. S'être méfié autrefois du pouvoir ne garantit pas que l'on soit à l'abri d'en abuser. Nous sommes tous sensibles à ces effets enivrants. Bien que le pouvoir soit essentiel pour prendre en charge et gérer le changement, il vous rend vulnérable à deux pièges insidieux, l'hubris et l'égocentrisme, qui peuvent non seulement affecter votre propre efficacité, mais aussi saper celle de votre équipe. Nous avons étudié et enseigné le pouvoir pendant 20 ans, et avons interrogé plus d'une centaine de personnes sur les 5 continents sur la manière dont ils l'ont atteint et exercé. Dans cet article, nous proposons des stratégies pour reconnaître les pièges du pouvoir, comme Vera Cordeiro a fini par le faire, et pour les éviter. Les dangers de l'hubris et de l'égocentrisme. Les périls de l'hubris, un orgueil et une confiance en soi exagérée qui peuvent accompagner le pouvoir, sont bien documentés. Prenons une étude dans laquelle on demanda à un certain nombre de participants d'écrire sur un moment où ils s'étaient sentis puissants et à d'autres d'écrire sur un moment où ils avaient éprouvé un sentiment d'impuissance. Puis on donna à chacun un dé en lui promettant une récompense s'il prédisait correctement le résultat d'un lancer. Et on lui demanda s'il voulait jeter lui-même le dé ou laisser l'expérimentateur le faire. Seuls 58% de ceux qui avaient écrit sur le sentiment d'impuissance jetèrent le dé, tandis que tous les participants ayant écrit sur le sentiment de puissance le firent. Le simple souvenir d'une expérience de pouvoir peut conduire les gens à surestimer considérablement leurs capacités, au point même de penser qu'ils sont capables d'influer sur un lancer de dés aléatoire. Si c'est l'effet que peut produire le fait de penser au pouvoir pendant quelques minutes, imaginez les répercussions que cela implique lorsque l'on occupe un poste important pendant des années. Il n'est pas étonnant que les études sur l'arrogance des PDG abondent. Les recherches montrent que les leaders ayant connu le succès et reçu des éloges à cet égard deviennent si présomptueux qu'ils paieront des prix exagérément élevés pour des acquisitions, en particulier lorsque la vigilance du conseil d'administration fait défaut. Plus la suffisance du PDG et les prix d'acquisition sont importants, plus les pertes des actionnaires sont élevées. Si le pouvoir vous monte à la tête, tout le monde y perd. Les psychologues ont documenté l'impact résultant du fait de réfléchir, même brièvement, à son pouvoir par rapport à celui des autres. Dans une étude, des chercheurs ont demandé aux participants de penser soit à ceux qui possédaient le plus d'argent et de notoriété aux États-Unis, soit à ceux qui en avaient le moins, puis de noter leur propre situation sur une échelle. S'interroger sur les individus les plus puissants a conduit les participants à se sentir relativement impuissants et à se situer en bas de l'échelle, tandis que réfléchir aux individus les moins puissants les a incités à se situer plus haut. Les participants ont ensuite été soumis à un test bien connu, Reading the Mind in the Eyes, lire l'état d'esprit dans les yeux, qui demande aux individus, afin de mesurer leur empathie, de déceler les états émotionnels des autres à partir de photos de leurs yeux. Ceux qui se croyaient à un haut niveau étaient significativement moins précis. Le sentiment du pouvoir les rendait moins attentifs aux émotions des autres. Une telle insensibilité se reflète souvent dans la mauvaise compréhension qu'ont les managers des relations entre les subordonnés. Les recherches montrent que la capacité à cartographier les réseaux est une source de pouvoir, mais paradoxalement, à mesure que les gens deviennent plus puissants, ils sont moins susceptibles d'exploiter les avantages de la perception précise des réseaux situés en dessous d'eux. La cause en est l'égocentrisme induit par le pouvoir. Les leaders ont tendance à devenir moins attentifs à leurs subordonnés et ne prennent pas la peine de cartographier leur réseau. Ne pas voir les personnes que vous dirigez diminue l'efficacité de toutes parts. Vous ne pouvez pas diriger des collègues que vous ne comprenez pas, et les gens ne seront pas motivés ni capables de donner le meilleur d'eux-mêmes s'ils ont l'impression que vous êtes coupé d'eux et que vous ne leur prêtez aucune attention. Vous pourrez peut-être passer à travers à court terme, mais leurs performances en souffriront par la suite et votre leadership risque d'être remis en question. Pour exercer efficacement le pouvoir, tout en évitant ses écueils, les leaders doivent cultiver l'humilité comme antidote à la suffisance et l'empathie comme antidote à l'égocentrisme. Ces qualités favorisent une attitude d'ouverture à l'apprentissage et à l'altruisme, clés pour utiliser le pouvoir au service d'un objectif commun qui transcende les intérêts personnels. Cultiver l'humilité. Pour faire preuve d'humilité, d'une absence d'orgueil ou d'arrogance, il faut avoir une perception précise de ses propres capacités, accomplissements et limites. Plusieurs étapes peuvent vous aider, vous et votre équipe, à y parvenir. Rendez acceptable, voire souhaitable, le fait de dire « je ne sais pas ». Priscilla Luna est vice-présidente des opérations chez Loblaws Companies, une chaîne canadienne de magasins d'alimentation et de pharmacie. Voici ce qu'elle raconte à propos de la formation des étudiants en pharmacie au début de sa carrière. Je leur disais toujours « quand un patient veut savoir quelque chose sur ses médicaments, ne vous sentez pas obligé de répondre à sa question tout de suite. Si vous connaissez la réponse à 100%, allez-y, bien entendu. Mais si vous n'êtes pas sûr à 100%, donnez-vous le droit de leur dire que vous allez vous renseigner. Vous renforcez votre crédibilité et votre code de confiance en étant humble et en répondant « je ne sais pas ». Je continue à donner ce conseil à mes équipes.